Bonjour, installez-vous. Bienvenue ce matin, bienvenue à chacun, aux habitués de la paroisse, bienvenue aux évangéliques aussi, entre guillemets, hein, évangéliques, on est tous évangéliques. Bienvenue aux visiteurs, aux curieux de passage, en recherche ou autre. Bienvenue aux plus jeunes comme aux plus âgés. On m'a signalé la présence de Madame Serirat, pasteur en Thaïlande, donc bienvenue aussi. Je vous laisse vous lever. Bienvenue parmi nous. Voilà, si vous pourrez faire peut-être plus ample connaissance à la sortie du culte, si vous le désirez. C'est une richesse de pouvoir partager ces temps avec une variété d'origines, d'âges, de parcours. Alors, bienvenue au nom de toute l'équipe qui a préparé et qui s'active au déroulement de ce culte, mais surtout, bienvenue de la part de Dieu qui se réjouit de nous voir, chacun d'entre nous individuellement, mais aussi d'entre nous tous rassemblés ce matin en son nom. Nous nous retrouvons durant l'été protestants et évangéliques pour vivre nos cultes en commun. Nous partageons nos lieux, nos lieux de culte, nos ressources, nos richesses. On partage nos habitudes et peut-être aussi certaines mauvaises habitudes à avoir. Et ce matin, nous en sommes justement au Sola Scriptura, un peuple du livre, avec Joseph Benesch. Merci de ta participation. Alors, nous avons nos traditions, nos habitudes, nos rites, mais nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu, de la Bible. Cette parole qui est dans un livre, elle est toujours vivante. Elle reste toujours d'actualité dans ce monde où chacun peut des fois définir, choisir ses propres vérités. On parle ouvertement de fake news, de faits alternatifs. Mais si cette parole, cette Bible est toujours vivante, c'est aussi à nous de la faire vivre. Conduit par son esprit, pour qu'elle soit active dans chacune de nos vies. Alors, je vous invite à prier. Seigneur, merci de nous rassembler ce matin avec toutes nos différences. Nous nous rassemblons autour de toi, de ta personne, autour de ta parole, source de vie. Que tu bénisses ce temps de culte, que tu nous gardes dans ta présence, que tu travailles nos esprits, nos pensées et surtout nos cœurs pour que nous soyons toujours plus à ton image. Merci pour les projets que tu as pour chacun d'entre nous, pour nos communautés et aussi pour nos voisins, nos familles. Et en ce temps, nous te remettons aussi tous ceux que nous avons à cœur, qui n'ont pas pu se joindre à nous ou qui se rassemblent en ton nom aussi, plus loin ou à Genève ou partout dans le monde, Seigneur. Amen. Alors, nous allons poursuivre nos habitudes avec un temps de louange. Alors, je laisse les musiciens venir me rejoindre. Nous allons prendre un temps de chant et de louange, un temps où nous pouvons dire à Dieu combien il est grand, combien il est bon, combien il est amour, combien il est fidèle, combien il est au-dessus de nous, et pourtant combien il peut être proche de nous aussi. C'est un temps privilégié pour proclamer son nom et être dans sa présence. Alors je vous invite à vous lever et on va commencer avec le 516 « Venez le célébrer ».
Et nous en chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu. Ta joie et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, célébrer.
Dieu fait alliance avec son peuple. Il a fait des promesses et elles tiennent toujours. Et Paul dit en parlant de Jésus, en 2 Corinthiens 1, 20, « Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi est-ce par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. » Alors ce Jésus qui est le oui de Dieu à toutes ses promesses, qui est notre sauveur, qui est mon sauveur, mon abri, qu'on puisse le chanter ensemble. On va continuer avec le 640 qui dit « Ô Jésus, mon Sauveur ».
Seigneur, nul n'est comme toi, jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de je tiendrai par la foi.
Dieu, merci pour ta création, œuvre de tes mains, de ta parole. Merci parce que tu ne t'es pas détourné, mais tu es resté fidèle à tes promesses. Et merci d'avoir envoyé ton Fils, d'être venu parcourir la terre pour nous rejoindre. Merci parce que maintenant, aujourd'hui, je peux aussi m'approprier tes promesses de vie en abondance, de paix, de salut. Alors que par ton esprit, je puisse toujours mieux comprendre, vivre ces promesses pour moi, qu'elles portent du fruit dans ma vie et tout autour de moi.
Le cours des
Tu peux déjà monter. Nous allons poursuivre ce culte avec les lectures et la prédication. Alors, je ne sais pas s'il y a des enfants. Alors, en tout cas, il y a quelque chose à disposition, ou quelqu'un surtout, en tout cas, à disposition. Je ne sais pas, Nicolas, si tu veux te lever, que les gens te voient. C'est avec Nicolas. Voilà. Ouais. Alors, si vous voulez descendre, sinon, vous pouvez rester là, vous êtes les bienvenus aussi. Que vous soyez aussi bénis en bas. Alors, on va passer à quelques lectures, et puis on va se les partager. Comme ça, ça nous permet aussi de se familiariser avec un petit accent. Alors, il y aura trois petites lectures. Je commence avec Ésaïe, au chapitre 55, les versets 10 et 11. C'est que, comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole. Du moment qu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyé.
Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. »
Et encore dans Romains, chapitre 10, versets 14, 15 et 17. Or, comment l'invoquerait-il sans avoir cru en lui? Et comment croirait-il en lui sans l'avoir entendu? Et comment l'entendrait-il si personne ne le proclame? Et comment le proclamer sans être envoyé? Aussi est-il écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ainsi, la foi vient de la prédication, et la prédication, c'est l'annonce de la parole du Christ. Alors, je laisse la place.
Chers frères et sœurs en Christ, sola scriptura, les Écritures seules, tel est le thème qui m'a été attribué par mes collègues pour cette série de prédications où la réformation, comme notre héritage et notre actualité, ainsi que son rôle dans la formation du monde moderne, doivent être mis en évidence. Bien que la date du 31 octobre 1517 de l'affichage des 95 thèses contre les indulgences et le 500e anniversaire de cet événement soit de haute importance, étant convaincu que la Réformation était un large mouvement et que l'Esprit Saint a toujours agi et soufflé dans l'Église, je me permettrai de descendre d'un siècle plus bas dans notre ère chrétienne. Nous nous trouvons dans la salle du Concile à Constance au printemps 1415. Malgré une atmosphère houleuse et des réactions haineuses, des cris, des drames, l'audition avec Jan Hus, professeur de l'université Charles à Prague, prêtre et prédicateur à la chapelle de Bethléem à Prague, est menée selon les règles des disputations universitaires. Nous en avons d'ailleurs un résumé en latin que tout le monde peut aujourd'hui encore lire. Déjà emprisonné comme hérétique, Jan Hus ou Jan Hus, comme vous voulez, a néanmoins une occasion de s'exprimer devant le concile lors des 6 séances. C'est un petit peu un privilège. Il est le seul des réformateurs qui aura eu une occasion de parler devant les plus hauts représentants des églises de toutes les nations occidentales et en présence de l'empereur Sigismond lui-même. C'est d'ailleurs lui qui a beaucoup insisté, parce qu'il y avait aussi une tendance d'exécuter Jan Hus comme hérétique tout de suite. Sigismond, pour plusieurs raisons, tactiques et diplomatiques, a voulu qu'il y ait des séances, qu'il y ait des auditions avec Jan Hus. Accusé, entre d'autres hérésies, de soutenir la communion sous des espèces déjà pratiquées à Prague, Jan Hus se réfère au texte biblique et notamment à l'évangile de Jean, au chapitre 6. Jésus leur dit alors, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. » Par ailleurs, rappelle Jan Hus, plusieurs décrets de l'Église ancienne interdisaient la communion avec le pain seulement, la pratique interdisant la coupe aux laïcs étant introduite assez récemment, du point de vue de Jan Hus, c'est-à-dire au Concile de Latéran en 1215. La réponse formelle du Concile, et nous sommes à 3 semaines du bûcher de Jan Hus, la voici. Il est vrai que Jésus-Christ et l'Église primitive communiaient à la coupe. Cependant, étant donné que l'Église avait des raisons suffisantes de limiter la communion à la coupe aux prêtres seuls, et ce nouvel ordre ayant caractère de loi, celui qui résiste est hérétique. C'est un exemple. Parmi d'autres, il y en aura d'ailleurs 30 articles que nous pouvons encore relire dans le recueil des décisions des conciles, 30 articles qui seront portés en accusation, comme accusation finale contre Jan Hus. D'ailleurs, le décret par lequel Martin Luther a été excommunié en contenait 41, donc il y en avait un petit peu plus. L'Église, dans son organisation précise, a donc le droit et le devoir d'interpréter la Bible et, le cas échéant, de s'écarter même du texte de la Bible. Il y a donc 2 sources qui se valent, la Bible d'un côté et la tradition, c'est-à-dire la décision des conciles et respectivement des papes de l'autre côté. Un fossé se creuse alors entre la position de l'Église romaine et ceux qui, à l'instar de Jan Hus, découvrent un accès direct à la Bible, à son inspiration, à son élan. Il est étonnant de voir avec quelle lucidité Jan Hus soumet l'Église à une critique à la lumière des Écritures. 2 choses apparaissent alors qui sont, je crois, caractéristiques pour le protestantisme ou bien pour le protestant. L'homme façonné, ou la femme aussi façonnée, par les principes de la Réformation. La première chose, c'est la conscience personnelle, qui ne peut pas être diminuée, effacée par aucune autorité, aussi vénérable qu'elle soit. Estimant que le Concile ne se tenait pas rigoureusement aux Écritures, Jan Hus refusera de se rétracter, refusera de trahir la vérité découverte dans les Écritures et subira le martyre du bûcher. Similairement, Martin Luther estimera qu'il serait erroné, il serait nocif d'aller contre sa conscience. La deuxième chose est le courage personnel. Le courage personnel. « Dieu seul sait ce que j'ai vécu hier soir », écrit Jan Hus dans l'une de ses lettres envoyées de sa prison au Concile. « Dieu seul sait ce que j'ai vécu hier soir alors que j'ai reçu la visite d'un grand dignitaire de l'Église. À la différence des séances d'interrogatoire, il se montrait fraternel, pastoral, amical même, qui était ce personnage. On pense qu'il s'agissait d'un des pères du Concile, un adversaire terrible de Jan Hus, la figure de proue du concile Pierre d'Ailly, le grand théologien. Luther dira un siècle plus tard, « J'irai à Worms, à la diète de l'Empire, même s'il y avait autant de diables que de tuiles sur les toits. » L'apparition de ce courage personnel, motivé par la parole de Dieu, est fondamentale pour la réformation. Le théologien Paul Tillich met cette apparition du courage personnel en relief. Selon lui, le courage de l'homme du Moyen-Âge, il était aussi courageux, reposait avant tout sur son identification avec l'institution de l'Église. Cet homme était collectivisé ou semi-collectivisé. Similairement, à l'époque moderne, dite de l'émancipation de l'homme, l'Europe a vécu l'apparition de deux immenses systèmes collectivistes, le communisme et le fascisme. L'homme, à l'intérieur de ce système, puisait son courage, et parfois remarquable, de son identification absolue avec la collectivité. Une analyse assez profonde de notre société actuelle, de notre société technologique, montrerait, je crois fermement, que nous sommes en train d'être collectivisés en profondeur, le soi-disant individualisme moderne n'étant qu'une pure illusion. L'âme de l'homme moderne s'appauvrit. Il y a donc ces deux choses, ces deux acquis de la Réformation à garder, à cultiver et toujours à nouveau acquérir, parce qu'elles ne vont pas de soi. La conscience personnelle et le courage d'être appuyé sur la parole de Dieu, sur son appel et sur sa vocation. Le mouvement de la Réformation n'était pas d'abord un produit de l'activité intellectuelle, même s'il était porté par les intellectuels de premier ordre. L'Église romaine en avait d'ailleurs aussi. Ce mouvement est né avant tout d'un souci pastoral, d'un souci pour les âmes. Au moment où il rédigeait les 95 thèses contre les indulgences et les clouait sur le portail de la Schlosskirche à Wittenberg, Luther remplace. Il remplace le curé de la paroisse. Il est en charge dans cette paroisse. Il écrit d'ailleurs à l'archevêque de Mayence, « Les âmes qui vous sont confiées sont livrées à la perdition. » Et quelle perdition ? La prédication, les prédications absurdes, et si on la lisait aujourd'hui, on serait vraiment même aujourd'hui choqués, les prédications blasphématoires d'un certain Tetzel ayant la licence de la vente des indulgences. D'une manière similaire, plus d'un siècle avant, Jan Hus est transformé par le souci des âmes. Il abandonne alors l'idée d'une carrière brillante, vertigineuse même, pour un garçon qui, comme enfant, gardait dans son village des oies, d'où vient d'ailleurs aussi son nom Hus. Chargé de prédication à la chapelle de Bethléem, ce vaste édifice au centre de Prague, qui était d'ailleurs rénové dans les années 50, donc on peut le voir aujourd'hui encore, ce vaste édifice au centre de Prague, pouvant accueillir 3000 personnes, Jan Hus a d'ailleurs, à côté de l'enseignement à l'université, à la charge de 240 prédications par année. Il découvre à la fois l'ignorance et la soif du peuple. Pour ces commerçants, ces tailleurs, ces cordonniers, ces scribes, ces ouvriers et la petite noblesse, l'Église ne fait rien. Elle ne fait rien pour l'élévation de leurs âmes. Comme plus tard, la cathédrale de Genève, au temps de Calvin, la chapelle de Bethléem à Prague, cette maison de pain de la parole, devient une université du peuple. Les gens apprennent la connaissance de la Bible. Ils découvrent sa son incroyable richesse. Ils apprennent à réfléchir, à s'exprimer, à discuter. Ils ont enfin droit à la parole. Jan Hus rédige ses prédications en latin, mais il les prononce, comme d'ailleurs moi aussi, dans la langue du pays. Donc à Prague, c'était évidemment le tchèque. Les inscriptions sur les murs, lui, servaient de PowerPoint, comme ici. Il y avait des inscriptions sur les murs qui contenaient des éléments de base de la foi chrétienne, et il y avait un aide du prédicateur. Souvent, ces inscriptions étaient quand même en latin, donc il fallait les traduire, et il y avait un aide du prédicateur muni d'une tige qui montrait les mots et qui les expliquait, et qui l'expliquait et qui répétait avec l'assemblée. Il y avait aussi des textes, des cantiques, parce que cette assemblée, le peuple avait le droit aussi à chanter, de chanter. Après le bûcher, donc l'héritage de Jan Hus ne disparaît pas après son bûcher en juillet 1415. En 1430, le synode de cette église dite hussite, majoritaire dans le pays, ordonne aux prêtres l'obligation de posséder au moins le Nouveau Testament. Au moins le Nouveau Testament. Nous sommes d'ailleurs à 30 ans de l'invention de l'imprimerie. Pour un copiste expérimenté, il fallait une année pour copier la Bible tout entière. Donc la Bible était quand même rare. Aeneas Silvius Piccolomini, le futur pape Pie II, en passant en 1434 par la ville hussite Tabor, qui existe toujours dans le sud de la Bohême, il s'étonnait. Une simple femme de Tabor connaît la Bible mieux qu'un cardinal à Rome. En 1538, Luther écrit, il y a 30 ans, personne ne lisait la Bible. Par exemple, moi, à l'âge de 20 ans, je n'ai jamais vu une Bible. Plus tard, j'en ai vu une, dans la bibliothèque de l'université. J'ai lu un passage du livre Samuel, mais la cloche m'appelait au cours. Et j'ai dû abandonner cette Bible. La tradition chrétienne parvient à Luther sous la forme d'un enseignement scolastique qui réserve une place primordiale aux œuvres, à l'effort de l'homme sur le chemin vers Dieu. Il faut d'abord faire quelque chose, et faire beaucoup de choses. Estimant qu'il ne pourra jamais répondre à l'exigence de la justice de Dieu, il reconnaît la vanité de ses efforts. Soit dit en passant que Luther ne craignait pas des efforts. Il est responsable d'un district de 11 monastères des Augustins. Lors de l'épidémie de la peste en 1515, il ne quitte pas Wittenberg, alors que son supérieur le lui ordonne. Il reste sur place. C'est dans le psaume 31, verset 1, « Seigneur, libère-moi par ta justice ». Qui entame un tournant décisif de sa pensée, de sa théologie. La justice, c'est celle de Dieu attribuée à celui qui croit. Et ce sont les cours sur l'épître aux Romains qu'il enseigne à l'université qui opère une transformation totale. C'est en lui, en l'évangile, que la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi, face aux Écritures, et cela est fondamental. Et je dirais toujours d'actualité, aujourd'hui encore, Martin Luther établit une règle d'interprétation. Le sens des Écritures, c'est de nous révéler la grâce de Dieu et par conséquent, nous-mêmes, comme bénéficiaires de cette grâce, de la justice de Dieu. Le critère de toute interprétation des Écritures est exprimé d'une manière assez pittoresque, typique pour Martin Luther qui avait le don du verbe. Fort. Les Écritures, ce sont les couches pour l'enfant Jésus. Ou bien, par une devise difficile à traduire, un père en traduisant perd sa vigueur, il faut chercher dans la Bible « das was Christum treibt ».« Was Christum treibt », c'est ce qui pousse le Christ, ce qui relève le Christ. C'est ce qu'il faut chercher dans les Écritures. Dans la Bible, il y a tout, dira le philosophe et membre important de l'Église réformée en France, Paul Ricoeur. Mais comment rendre ce volume, ce contenu actuel et vivant? Comment s'orienter? Les critères d'interprétation établis par Luther sont toujours valables. Par rapport aux œuvres, il est important de les placer d'une manière juste. Les œuvres doivent suivre la foi, l'acceptation de la justice de Dieu, doivent suivre la foi, doivent suivre l'acceptation de la justice de Dieu et de la grâce. L'homme ne peut pas créer un trésor de mérite face à Dieu. C'était d'ailleurs l'idée assez remarquable des indulgences. L'Église a accumulé des trésors par des gens extraordinaires et peut alors de ce trésor, un peu comme un système bancaire, elle peut prendre ce capital pour le donner à celui qui en manque, qui est en manque. Peut-être même en faillite. Donc l'homme ne peut pas, c'est une position claire, l'homme ne peut pas créer un trésor de mérite face à Dieu. Car en cela, Luther est étonnamment moderne. Les œuvres, quoique admirables, peuvent être un effort de se chercher soi-même, de se faire valoir. Luther parle alors d'un être humain qui se suffit à lui-même, qui est recroquevillé sur lui-même. Même la recherche religieuse peut être une recherche de soi-même. À quoi tu accroches ton espoir? C'est pour toi, ton Dieu. Nous vivons dans une société où l'homme pose les bases de sa vie et de sa dignité par ses propres mérites, par ses efforts parfois gigantesques, le succès étant la loi non écrite qui gouverne notre société, la base de la dignité même, la dignité humaine. L'annonce de l'Évangile, de la grâce de Dieu, comme une véritable base de la dignité humaine, est d'une grande actualité, un héritage toujours actuel de la Réformation. Dans le commentaire de l'Épître aux Galates, que Luther aimait beaucoup, il disait qu'il retournait toujours à cet épître, comme il retournait d'ailleurs toujours à sa femme, Katharina, de nouveau un de ces verbes forts de Luther. Il dit, le chrétien est un homme libre sur toute chose et soumis à personne. Libre sur toute chose et soumis à personne. Et en deuxième, un chrétien est un serviteur au service de tous et soumis à tous. Alors choisissez. Bon, c'est que l'image, c'est que par sa foi, le chrétien monte au ciel et par l'amour, il descend sur la terre. Les Écritures seules, sola scriptura, cette affirmation nécessite une petite réserve. Luther, comme tous les réformateurs, acceptait certains dogmes des premiers conciles de l'Église. Par exemple, celui de la Trinité et de deux natures du Christ. Ce sont les bases fondamentales de la foi chrétienne et du dialogue écuménique. Dans l'esprit de la réforme, de la liberté du chrétien, de son ouverture au monde, de sa conscience, du courage personnel basé sur le message de l'Évangile. Amen.
Je vous invite à rester dans cette attitude de réflexion, intérieure. On peut reprendre ces éléments, par exemple cette différence entre l'homme et le chrétien, ou certains autres éléments, et qu'on puisse se tourner vers Dieu aussi dans la prière. Si vous voulez vous exprimer de manière intérieure, vous pouvez le faire. Si vous voulez le faire à haute voix, vous êtes aussi libre de vous exprimer et de que cela puisse aussi nous permettre de nous édifier parmi. Alors, je vous invite à continuer ce temps de prière. Je terminerai, moi, par une prière.
Seigneur Jésus.
Merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes. Merci pour l'accès effectivement auquel qu'on peut avoir. Merci de ces affichages de temps en temps qu'on voit même sur la voie publique avec des versets qui apparaissent. Mais Seigneur, que tu nous aides à vraiment nous nourrir de cette parole et qu'elle nous mène à toi, qu'elle nous conduise à toi, à toujours mieux te connaître, à toujours plus te connaître et à chercher ta présence, chercher ta volonté. Et merci pour ces promesses, comme on l'a lu, effectivement, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir porté son effet. Alors Seigneur, que ta parole puisse produire du fruit dans nos vies. Amen. Nous continuons avec le temps de scène, le temps de la Sainte Cène. On va partager avec justement le pain et le vin. Ce repas que Dieu nous invite à partager entre nous, dans sa présence. Et je vous propose de commencer avec un chant qui dit « C'est par la grâce, c'est par ta grâce que nous venons devant toi ». Je vais lire l'institution dans Matthieu, au chapitre 26. Au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai. Je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. »
Amis des pèlerins, Saint-Esprit, viens, afin que la communion au pain et au vin soit pour nous la communion au corps du Christ. Inspire-nous, donne-nous du courage de vivre la foi qui surmonte tous les obstacles. Nous te prions pour les chrétiens de Mérin, pour ton Église universelle dispersée dans le monde entier, pour les habitants de notre commune, pour les familles, pour la jeunesse. Et nous te prions dans ce vaste monde, avant tout pour les chrétiens persécutés en Irak, en Syrie, en Égypte. Seigneur, sois avec nous, soutiens-nous, nous te prions pour nos familles, pour nos amis, pour tous ceux qui traversent un temps difficile à cause d'une perte irremplaçable, à cause d'une difficulté. Soutiens-les, soutiens-nous tous. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen.
Amen. Nous allons passer dans les rangs, comme à l'habitude d'ici, avec les paniers de pain et les plateaux de vin. Dans ces plateaux, il y a des petites coupelles. Les petits verres au centre de couleur sont du jus de raisin, les autres du vin. Et si vous désirez communier à la coupe, il faut simplement faire signe. Nous passerons avec la coupe aussi. Voilà, vous pouvez, pendant ce temps-là aussi, vous prier à haute voix si vous le désirez. Seigneur, merci de ce sacrifice que tu as fait pour nous, de la vie que tu as donnée pour nous. Que tu nous permettes de réaliser toujours mieux combien cela a coûté et ce que cela veut dire pour nous, dans notre vie et dans notre société. Et que suite à ce temps, que tu nous donnes la force pour réaliser une vie selon ton cœur, une vie pleine de partage à ta suite et pleine de ta lumière. Amen. Alors, on poursuit le culte encore avec un temps d'offrande. On a la possibilité de donner ou de rendre, suivant comment on voit les choses, peut-être la dîme, peut-être plus ou moins, de donner une partie de nos biens sous forme d'argent. Et peu importe le montant que nous donnons, que nous puissions le faire avec joie et le faire avec confiance. Cet argent servira au fonctionnement de nos communautés, de nos familles d'église respectives également. Et je vous invite, pendant ce temps, on va passer des sachets, à chanter ce chant qui dit « Pas à pas, tu me conduis, c'est toi que je suivrai toute ma vie ». Voilà, je vous invite à vous lever. Merci Seigneur de ce que tu nous permets de te rendre, de déposer devant toi et que tout cet argent puisse servir effectivement à l'avancement de ton royaume, que tu bénisses ceux qui le gèrent et que par cet argent aussi effectivement ton royaume puisse venir et que nous puissions servir à ta gloire. Amen. Voilà, je vous laisse reprendre place. Et on va passer aux annonces. Il y aura une première annonce. Claude, il est là. Ouais. Alors, une première annonce, on se permet de la faire quand même, qui concerne notre famille d'église, la Frée, par rapport à la dernière assemblée générale. Il a 3 minutes. Ouais, on va voir. Non, c'est bon.
Ça fait dommage 3 minutes parce qu'il y a vraiment des belles choses. Ça marche, fonctionne pas ?
Si, c'est bon.
Si ? Ok. Alors effectivement, c'est une rencontre générale de la FRE, donc la Fédération Romande des Églises Évangéliques. Et je crois que ça, effectivement, c'est un peu la cuisine interne, mais je crois qu'on a eu beaucoup d'encouragement, que ce soit pour tous les chrétiens de Suisse romande. D'abord, on a eu un accueil par le pasteur de cette église évangélique libre de Fribourg. Et cette église, elle a démarré il y a 30 ans par une église de maison. La méditation qui était justement faite par ce pasteur Philippe Evan dans 2 Timothée 3, verset 14, Donc on parle justement des écrits sacrés, écritures. Pierre et Paul ont inclus l'Ancien Testament dans leurs lettres. Dieu s'intéresse à nous, il nous parle selon le soli, écriture seule et non la tradition. Donc on reprend un peu le thème d'aujourd'hui. Est-ce que l'écriture est une autorité? Est-elle une autorité pour nos vies? Est-ce que notre culture familiale, d'église, prenne le pas sur l'écriture? L'écriture est puissance de Dieu, elle est la sagesse qui transforme et Dieu a le droit de nous transformer car il est le créateur. C'est un petit peu le résumé de sa méditation. Ensuite, nous avons parlé du guide de l'employeur, donc pour les églises et les conseils. Donc un premier rappel, cette première partie de ce guide a été votée par une rencontre générale le 26 novembre 2016. Et la deuxième partie, où il y a les détails de cette première partie, où c'est un peu plus mieux, enfin, où c'est expliqué plus particulièrement et moins les principes. Donc il doit y avoir encore une relecture orthographique et juridique et est à disposition des églises dès le 7 juillet, donc depuis hier ou avant-hier. Au niveau de la pastorale de l'AFRAY, donc cette pastorale regroupe de 98 pasteurs et personnes ressources, c'est-à-dire des pasteurs externes, des pasteurs retraités et divers ministères. Les changements en cours qui est signalé, c'est d'abord le nombre, parce que ces pasteurs de l'AFEL, donc de la Fédération des Églises Libres, a rejoint donc l'AFRAY, et donc ça fait tout à coup beaucoup plus de pasteurs et doivent gérer un peu ce grand nombre. Et d'autre part aussi la culture, parce qu'avec l'arrivée de jeunes pasteurs qui ont d'autres approches, peut-être plus entre les 25, 30, 40 ans, donc ça amène un vent nouveau, une approche nouvelle. Dans cette pastorale, donc, elle souhaite de porter du fruit selon Jean 15, versets 5 à 8. Moi, je ne vais pas vous lire les versets, mais vous retrouverez dans Jean 15. Cinq buts sont poursuivis par cette pastorale de nos pasteurs. D'une part, le discernement et la réflexion, parce que l'Église est missionnelle, donc elle n'est pas à l'intérieur des murs, mais elle doit sortir des murs. D'autre part, le soutien mutuel entre pasteurs, par la louange et la prière. D'autre part aussi la formation continue. L'évangélisation, le Saint-Esprit, la Pentecôte, l'ecclésiologie et divers thèmes. Aussi la communication par l'édition d'une brochure Pastoral Info. Et finalement les aspects contractuels aussi, justement par ce guide de l'employeur, le deuxième pilier, donc ce qui a trait au métier, je dirais, de pasteur. La vision théologique pour 2017-2018 est la nécessité du regard de Dieu et d'une vision théologique qui reformule fidèlement l'expression de l'Évangile pour aujourd'hui. La pastorale veut aussi cheminer sur les axes de l'AFRAY, de la fédération, sur les points suivants. D'une part, le leadership. D'autre part, rejoindre les 20-35 ans. Donc, c'est aussi quelque chose que nous, on connaît à l'Église évangélique de Mérin. On veut rejoindre vraiment cette catégorie d'âge. L'évangélisation, implantation d'église, la fondation théologique et implantation de la vision de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui boue dans le cœur des pasteurs? Selon Ésaïe 66 et Matthieu 13, donc c'est la joie. Ensuite, nous avons parlé des témoignages d'envoyés en Suisse avec Gabrielle Desarsens, plusieurs d'entre vous la connaissent, donc c'est une journaliste et elle a expliqué un petit peu ses émissions qui passent sur notamment Espace 2, sur RTS. Et c'est aussi à signaler à ceux qui font le caté ou bien comment dire, des responsabilités avec les enfants, donc il y a une visite possible de la RTS sous son égide. On a parlé aussi de Valérie Campaoré, aumônière au CHUV. Donc c'est pour elle, ce travail, c'est vraiment l'incarnation de l'Évangile auprès des malades. Et au CHUV, il y a 18 aumôniers répartis entre les églises orthodoxes, catholiques, réformées et évangéliques. 80% des patients acceptent la visite d'un aumônier et posent beaucoup de questions sur existentielles. Ensuite, nous avons Laetitia Parat, qui a un ministère auprès des enfants. Ça fait un peu plus que 3 minutes peut-être. Et beaucoup d'émerveillement des petits-enfants, elle signale, et Kids Game notamment a accueilli 2177 enfants en 2016, et aussi la possibilité de formation sur les sites internet ministoc.ch. Le point suivant était l'implantation d'église. Donc on a reçu ce mandat, tous les chrétiens ont reçu ce mandat donné par Jésus de faire des disciples dans Matthieu 28. L'église locale qui sème ou qui implante, mais aussi par des églises de maison. Son responsable, Emmanuel Schmitt, rappelle que Est-ce qu'il y a une croissance chez les chrétiens? Est-ce que 10% des chrétiens en Suisse romande, dont 4% d'évangélistes, est-ce qu'on n'a pas un champ de mission aussi au sein de la Suisse romande? L'Église doit libérer ceux qui ont des projets et appelle aux pasteurs de regarder s'il n'y a pas des vocations d'implantation à discerner chez les membres des églises. Nous avons eu aussi divers témoignages vraiment tout à fait différents par rapport aux témoignages qu'on peut avoir autour de nous. D'abord, une église à Reconvilier avec Claude Bordigoni. Vive l'église autrement, il propose, par des repas gourmets avec orateurs dans un site particulier. À Nyon, donc ça se fait déjà. Donc à Nyon, il y a les cartons du cœur, donc une initiative œcuménique de distribution des invendus. La Fraternelle, donc, qui est une église dans la ville, est en train de mettre en place un rez-de-chaussée pour un lounge café, donc avec un espace convivial pour recevoir des invités ou bien pour inviter des étudiants pour des repas et pour des moments de prière. Et à Bourguillon, je crois que c'est Fribourg, Bourguillon, Olivier Fazel, donc le pasteur, propose des spectacles de contes. On récolte ce qu'on sème, pas S-E-M-E, mais S-A-I-M-E, donc c'est très joli, et Pâques en compte. Ensuite, nous avons eu des échos de l'AFRE, justement, avec une conférence sur les migrants à Yverdon, qui sera le 30 septembre. Le 18 novembre, il y a la journée One, donc à Fribourg, plusieurs fédérations y participera. Et Philippe Crotteny, qui signalait justement les 10 ans de l'AFRE, pour entrer dans une dynamique missionnelle, nos églises sont là, non pas pour sont là pour ceux du dedans, mais aussi pour ceux du dehors. Et Serge Carrel, donc, qui s'occupe de la formation du Free College, encouragement à s'inscrire pour les cours sur la réforme en septembre avec un voyage sur les pas de Luther. Conférence aussi sur le changement climatique et aussi nous proposait la journée des motards. Alors, je ne sais pas s'il y en avait beaucoup parmi nous. Après les activités de SME, donc de la mission, au Bangladesh, donc information sur le travail de Beryl et Jay Lichfield, médecins. Ensuite, un programme institutionnel sur les services missionnaires. 10 projets sont présentés aux églises et à la DDC, donc à la Confédération, pour environ 500 000 francs. Le SME, donc cette activité missionnaire, a fêté ses 40 ans le 19 juin à l'église de la Colline à Crécy. Voilà, le bureau des rencontres générales où nous participons avec mon épouse et John. Donc il y a les renouvellements des instances. Et puis, au niveau des nouvelles des églises, donc la pélisserie organise aussi des conférences sur la réforme. Voilà, en gros, merci d'avoir de votre patience. Et puis peut-être, je ne sais pas, Francine, il y a des choses à rajouter? C'est tout bon? Je n'ai rien oublié? Merci beaucoup.
Voilà, alors première annonce, jeudi 13, il y a cette conférence qui est donnée à Vienne de Nick Vujicic, je pense, Vujicic. Il y a une retransmission au Centre chrétien du Bouchet, donc juste un peu là en dessous, le 13 juillet, 20h15, si vous n'avez pas l'occasion de vous déplacer à Vienne. Du 10 au 16 juillet, il y a un club d'été pour les enfants de 7 à 14 ans à Prévesin, organisé par l'église du 7. Voilà, il y a ce flyer-là que vous pouvez trouver à la sortie à gauche sur le présentoir si vous êtes intéressé. Mercredi dans 10 jours, c'est les grillades, l'Advent. On espère qu'il fera meilleur, qu'il fera beau. Vous êtes tous cordialement invités à participer. Dans 10 jours, donc, le 19. Et le dimanche 27 août, c'est le dernier dimanche d'août, fort bien. C'est également l'occasion de vivre un culte, une journée de reconnaissance pour le ministère de Roger et Dominique qui nous quitte après 8 ans de ministère parmi nous. Il y aura un repas, vous pouvez vous inscrire pour le repas à l'extérieur sur le comment ça s'appelle cet objet ? Un flip chart, voilà. C'est sur le flip chart qu'il faut s'inscrire. Vous pouvez plus d'informations auprès de Claire Lys-Sorex. Et 14-15 octobre, nous nous projetons dans l'avenir, le week-end de l'église évangélique au chaud des Crotenay. Il y a aussi le flyer à l'extérieur sur le tableau, aussi assez à gauche. Les inscriptions sont ouvertes, vous pouvez prendre le flyer, il y a le bulletin de versement dedans. Et puis, Dimanche prochain, le culte sera au centre paroissial œcuménique à la Cité, à 10h également. Voilà. Et puis, une dernière annonce, Daniel et Christine Strubin, transmis aujourd'hui, sont de nouveaux grands-parents avec l'arrivée de la petite Noélie dans la famille de Mireille. Félicitations.
Alors, je ne sais pas s'il y a des annonces du côté de la paroisse aussi, mais sinon, je te laisse en tout cas apporter la bénédiction.
Recevez la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allez, allez dans la joie du Christ. Amen. Et bon dimanche.